Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, vous savez tous qui est-ce, c'est le premier homme à avoir embrassé l'islam. Abu Bakr était réputé d'être un homme généreux et un homme de justice avant même de se convertir à l'islam. Il a dit de lui-même qu'il n'a jamais bu un verre d'alcool durant la période anté-islamique. Il ne s'est jamais prosterné devant une statue. La réputation d'Abu Bakr, ouvrez bien vos oreilles, était identique à celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous entendez, hein ? La réputation d'Abu Bakr était identique à celle du prophète. Pour vous montrer la grandeur et la beauté de cet homme. À la Mecque, Abu Bakr n'avait plus la possibilité d'être musulman à cause de la pression des Mécois. Non, à cause de la pression de la minorité des Mécois. Vous vous souvenez, la minorité, la majorité? Donc il y a une minorité de gens qui dirigent la Mecque, les notables, les nantis, ceux qui ont le pouvoir économique, politique, médiatique, etc., qui ne supportent pas des gens comme Abu Bakr. Pourquoi? Parce qu'Abu Bakr est pur et eux, ils sont impurs. Abu Bakr est propre et eux, ils sont sales. Abu Bakr dit juste et eux, ils disent faux. Vous entendez? Il y a de la jalousie. Il y a de la concurrence et de la compétition. Abu Bakr leur fait de l'ombre à cause de sa beauté, à cause de sa grandeur d'âme. Alors ils ont pris une décision. Vous savez laquelle? C'est d'interdire Abu Bakr d'être lui-même. Et c'est quoi la nature d'Abu Bakr? C'est d'être libre. Et tout être humain normalement constitué aspire à la liberté et ne rêve que d'une chose, c'est d'être libre. Personne ne voudrait parmi nous devenir esclave de quiconque. C'est-à-dire personne parmi nous n'accepterait de recevoir des ordres injustes d'un être humain, fût-il son père. Qu'est-ce que vous pensez alors d'un étranger? Alors imaginez-vous Abu Bakr avec sa grandeur, sa beauté, son caractère noble, un petit rigolo comme Abu Lahab, ouais, ou Abu Jahl, viennent restreindre sa liberté. Et vous savez ce qu'ils lui disent? Ils disent « on ne veut pas que tu sois musulman, on ne veut pas que tu pratiques ta religion ». Et encore moins que tu parles de ta religion à quiconque. Alors tu vas te taire, tu vas la fermer, tu vas rentrer chez toi, sinon on va te faire ta peau. Et Abu Bakr étouffe, et il n'en peut plus. Et à un moment donné, vous savez ce que décide Abu Bakr? Il décide de partir. Il décide de déménager. Parce que la vie est devenue impossible. Et vous savez pourquoi elle est devenue impossible? Parce qu'il peut plus, il n'est plus libre d'être lui-même. Abu Bakr prend ses clics et ses claques et elle s'en va. Il ne sait pas où, mais en tout cas il fuit. Il fuit quoi? Il fuit une société, sa ville, son pays, parce qu'il n'y a plus de liberté. Et sur la route, il passe à côté du territoire d'une tribu qui a pour chef un homme qui s'appelle Ibn Durrunna. Les services de renseignement d'Ibn Durrunna lui font tout de suite une fiche en lui disant « Voilà, il y a quelqu'un qui a traversé notre territoire et c'est Abu Bakr Siddiq le Quraishite. » C'est bon. Il était tellement réputé qu'Ibn Durrunna dit « Quel bon vent l'a fait traverser? Qu'est-ce qu'il fait ici ?» Et ils lui ont dit « Il fuit les siens. Il fuit sa ville. Il fait ce qu'on appelle en arabe l'hijr. Il quitte un endroit où il n'est plus possible d'être et de rester musulman pour aller sur terre afin de trouver un lieu où il pourra être libre d'être musulman. » Et là, Ibn Durrunna va réagir d'une manière magnifique. Vous savez ce qu'il va dire? Il ne sied pas à Ibn Durrunna de rester assis alors qu'un homme comme Abu Bakr est forcé de quitter sa ville. On n'expulse pas quelqu'un comme Abu Bakr et Abu Bakr n'a pas à quitter sa ville. Pourquoi est-ce qu'on n'expulse pas quelqu'un comme Abu Bakr? Parce qu'il a un casier judiciaire vierge. Non, mieux que vierge. C'est pas qu'Abu Bakr n'a jamais fait de mal, mais c'est Abu Bakr, il a toutes les médailles. Il a été médaillé par tout le monde. L'association des orphelins à la Mecque, c'est lui le parrain. L'association des veuves, c'est lui le parrain. L'association des orphelins, l'association des pauvres, l'association des chômeurs. Bref, toutes les petites gens, Abu Bakr leur a tendu la main, il ne cesse de leur tendre la main. C'est sa réputation. Vous savez ce que dit Ibn Durrunna? On n'expulse pas de sa ville quelqu'un qui prend en charge l'orphelin et il va dénombrer les qualités d'Abu Bakr, les fastes d'Abu Bakr. Et subhanallah, ce sont exactement les mêmes qualités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les qualités qu'a dit Khadija lorsqu'il a quitté la grotte. Il est venu se réfugier en son sein. Elle l'a réconforté en lui disant, ce n'est pas le diable qui t'a interpellé, mais c'est Dieu. Ça ne peut pas être le diable parce que tu es quelqu'un qui est comme ça, comme ça, comme ça, exactement comme Ibn Duranna a dit d'Abu Bakr. Pour vous montrer la réputation qu'avait Abu Bakr, non pas chez les musulmans, mais chez les non-musulmans. Vous entendez? Et qu'est-ce qui va sauver Abu Bakr de cet égir? C'est un non-musulman qui s'appelle Ibn Duranna qui prend sa défense. C'est plus que sa défense. Il prend des risques désormais. Il dit à Abu Bakr, tu vas retourner chez toi. Et je t'accompagne et je veux te mettre sous ma protection. Celui qui touche un poil de tes cheveux, un poil de ta barbe, il aura affaire à moi et à toute ma tribu. Il accompagne... Vous remarquerez qu'Abou Bakr fait demi-tour. Hein? Parce qu'il n'y a aucun être humain normalement constitué qui accepte d'être déraciné. On aime l'endroit où on est né, où on a vécu, où on a ses attaches. Matérielle, humaine. Donc Abou Bakr est parti à contre-cœur parce que sa liberté avait été écorchée et il revient avec plaisir et avec amour parce que Ibn Duranna s'engage à lui garantir la liberté d'être et de rester musulman. Il revient à la Mecque. Ibn Duranna entre en contact avec le conseil municipal de la Mecque, les nantis, les intolérants. Pardon, les nantistes, les intolérantistes, hein, les fanatistes. Et là, Ibn Duranna leur dit, Abu Bakr est sous ma protection. Celui qui le touche, touche à ma tribu. Vous savez ce qu'ils lui disent? Ils lui disent, on accepte ta protection. D'ailleurs, ils n'ont pas le choix parce que c'était une loi chez les Arabes. Quand quelqu'un met quelqu'un sous sa protection, vous ne pouvez pas le toucher. Au moins, ils avaient quelques lois qui étaient quoi? Qui étaient bonnes et qui étaient justes. Vous avez vu? Ils n'étaient pas musulmans. Ils n'avaient pas que des mauvaises lois. Ils avaient des belles lois, des bonnes lois, parce qu'elles étaient fondées sur quoi? Sur le bon sens et la justice. Ça s'appelle El Jiwar. Et s'il n'y avait pas cette loi non musulmane en apparence, mais musulmane dans le fond, je répète, non musulmane en apparence parce qu'elle n'est pas dite en arabe, elle n'a pas été inventée par des arabes, mais dans le fond, elle est musulmane, puisque elle... fait respecter la justice. Et qu'est-ce que c'est que l'islam si ce n'est la justice? El Jiwar, la loi de la protection, existait avant l'islam. Et l'islam n'a fait que la reproduire, la préserver, parce qu'elle est bonne. Nous n'avons pas le monopole de la justice. Tous les êtres humains sont capables de faire preuve de justice, comme Ibn Duranna a fait preuve de justice, comme les kuffars avant l'islam avaient des lois justes. Très bien. Vous savez ce qu'ils lui disent? On accepte que tu protèges Abu Bakr, mais à une condition. On ne veut pas qu'il fasse de prosélytisme. Excusez-moi le gros mot. On ne veut pas qu'il parle de sa religion en public. On veut bien qu'il soit musulman, mais en privé. C'est-à-dire, nous sommes laïcs. Nous acceptons toutes les religions, voilà qu'ils ne soyez discrets. Vous priez chez vous 24 heures, on n'a rien à cirer, mais quand vous êtes en place publique, on ne veut plus voir d'islam. Votre islam, il doit être dans votre cœur, bien planqué, bien caché. Surtout pas visible, pas de visibilité religieuse. Abu Bakr accepte, Ibn Duranna accepte la condition, les nantis Quraishites acceptent. Salam alaikum, Ibn Duranna, alaikum salam, si t'as un problème, tu me passes un coup de fil, je débarque avec ma tribu. Les semaines passent, les mois passent, et Abu Bakr en a marre. Il en a marre de quoi? Il en a marre de ne pas pouvoir pratiquer sa religion en toute liberté. Le fait qu'il lui ait retiré 10% de sa liberté, c'est-à-dire adorer son Seigneur dans son jardin. Vous savez, il a une maison, il a un jardin, il a une cour. Même ça, il n'avait pas le droit de sortir dans la cour et prier et lire le Coran. Il a dit, pourquoi? Pourquoi cette injustice? Pourquoi tout le monde a le droit et moi, je n'aurai pas le droit? Pourquoi il y a deux poids, deux mesures? Pourquoi Ada, il a le droit de manger de la viande? Vous l'appelez comme vous voulez et moi, je n'ai pas le droit de manger de la viande. Halal, halal, c'est quoi? C'est, au nom de quoi? Soit c'est interdit pour tout le monde, ou soit c'est autorisé pour tout le monde. Pourquoi elle aurait le droit de s'habiller comme ça, et ma fille n'aurait pas le droit de s'habiller comme ça? Abou Bakr ne supporte pas. Vous savez ce qu'il fait? Il sort, il s'assoit dans sa cour, il prend son Coran, il le lit, il fait sa prière. Et là, les curieux, les femmes, les enfants qui passent s'arrêtent, tendent l'oreille, écoutent Abou Bakr. Et Abou Bakr, c'était quelqu'un de très sensible. Quand il lisait le Coran, il pleurait. Et à votre avis, est-ce que ça laisse indifférents les gens? Pas du tout. Et là, on tire la sonnette d'alarme à nouveau. Le conseil de sécurité de la Mecque se réunit. Et il convoque d'urgence Ibn Durrana, le philanthrope. Et ils lui disent, Abou Bakr n'a pas respecté le contrat. Il a osé prier dehors. Dehors, ça lui appartient. Hein. Il n'est pas chez le notaire. Hein. Sa maison, son terrain lui appartiennent. Hein. Il a osé prier dehors. Il récite le Coran en public. Il égare nos femmes et nos enfants. Est-ce que vous avez entendu ce qu'ils disent? Il égare nos femmes et nos enfants. Allez. Leurs femmes et leurs enfants prennent une décision, c'est de l'égarement. C'est-à-dire, c'est de la dictature. Hein. Vous entendez hein. Et là, Ibn Durrana convoque Abou Bakr. Il lui dit, Abou Bakr, qu'est-ce que tu me fais là? On s'est mis d'accord. C'est ce que lui dit Abou Bakr. Il lui dit, je te remercie. Eh oui, le musulman, il doit être reconnaissant. Je te remercie. Tu as risqué ta vie, la sécurité de ta tribu pour moi, mais je te rends la promesse que je t'ai faite. Je n'ai plus besoin d'être sous ta protection parce que je ne supporte pas d'être limité dans ma liberté, même aussi infime soit cette privation de liberté. Et Ibn Durrana se soustrait et Abou Bakr se retrouve à nouveau seul face à qui? Face à la tyrannie des Quraysh. Le reste de l'histoire est longue, mais je vais faire un bond de 20 ans pour vous dire que qui c'est qui l'emportait. Est-ce que c'est Abou Lahab? Est-ce que c'est Abou Jahl? Est-ce que c'est Uqba ibn Abi Mu'ayt? Vous savez qui l'a emporté? Ben, la liberté, la justice, l'égalité, la fraternité, la tolérance, l'amour de son prochain. Les autres sont entrés par une mauvaise porte. Ouais, vous la connaissez? Celle de la gauche. Et Abou Bakr est passé par la bonne porte, puisqu'Abou Bakr va devenir le premier calife de l'islam, qui va diriger non pas la Mecque, mais qui va diriger toute l'Arabie et une partie de l'Empire byzantin. Vous vous rendez compte? 15 ans après, hein, ça n'a pas duré longtemps. C'est ça notre problème. C'est que on ne comprend pas notre religion comme il faut. On croit que la sira du prophète, alayhi salam, n'est pas d'actualité. Elle est d'actualité. Ne croyez pas que si Dieu a mis dans le Coran des passages de la vie du prophète, et si Dieu a facilité à nos savants la transmission de la sira, ne croyez pas que c'est en vain. C'est pour que nous en tirions des leçons. Alors ouvrez bien vos oreilles. D'Ibn Durrana, il y en a. Et il y en aura toujours. Deuxièmement, on ne quitte pas son pays parce qu'il y a une injustice, ou il y en a 10, ou il y en a 50. Vous savez ce qu'on fait? On combat l'injustice. Avec justice. Pardon. On combat l'injustice avec justice et justesse. Voilà. Les problèmes, on les résout. On ne tourne pas le dos aux problèmes et on se barre. Mais faudrait-il encore voir clair et savoir où est le problème et c'est quoi la solution? Ça demande quoi? Ça demande de la réflexion, ça demande de l'échange, ça demande de la discussion, ça demande du recul. Et il ne faut pas se laisser piégé par les passions et les émotions. C'est la raison et la révélation qui doivent nous éclairer. La raison, le bon sens, l'aql, et la révélation, le Coran et la Sunna. Et vous allez voir que la tempête va passer. Et Abou Bakr, ah, j'ai oublié de dire, faudrait peut-être qu'on ressemble à Abou Bakr, non? Quelle était sa réputation, Abou Bakr? Regardez, Ibn Durrana qui habite à des centaines de kilomètres a dépeint Abou Bakr comme étant le meilleur des hommes. Sa réputation. Et je crois qu'on a un problème de réputation, non? La réputation des musulmans. la réputation surtout des jeunes musulmans. Je sais que vous, vous êtes des anges. Regardez, vous êtes à la mosquée, vous êtes tout propre, tout nickel. Le problème, c'est que la majorité n'est pas à la mosquée. Et peut-être qu'une grande partie de cette majorité qui n'est pas à la mosquée entache la réputation de l'islam et des musulmans, il la salit. Si bien qu'aujourd'hui, on va tous payer la facture. Mais on ne va pas se laisser faire parce que nous sommes dans un pays de droit et de liberté et d'égalité. À nous de faire valoir nos droits. À nous de nous faire respecter. Si quelqu'un ne nous respecte pas, il faut le rappeler à l'ordre. Et entre nous, lisons le Coran comme Abou Bakr le lisait, ça aura un impact sur les autres. C'est-à-dire, comprenons notre religion et pratiquons-la comme Abou Bakr l'a comprise et l'a pratiquée, et vous allez voir que les gens ne seront pas indifférents aux musulmans citoyens pratiquants. Au contraire, ils vont les apprécier. Mais bon, c'est toute une discussion, inshallah, qui continuera la prochaine fois. اللهم احفظنا من أعدائنا اللهم انصرنا على أنفسنا اللهم اكفنا شر أعدائنا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان اللهم ارحم والدينا واحفظ أولادنا اللهم اكفنا شر أنفسنا اللهم اقض عنا ديوننا اللهم ثبتنا على دينك وصرف قلوبنا على طاعتك اللهم خذ بأيدينا اللهم خذ بأيدينا اللهم خذ بأيدينا آمين والحمد لله رب العالمين